avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Bonjour Olivier Drapé.
Bonjour Michael.
Le thème de votre chronique aujourd'hui, faut-il labelliser l'information ?
Absolument. Lors d'un débat sur les réseaux sociaux, le 28 novembre, donc vendredi dernier, Emmanuel Macron a proposé une labellisation des acteurs de l'information et préconisé également un recours judiciaire d'urgence contre ce qu'il appelle les fausses informations. Suite au tollé que cette proposition a suscité, Emmanuel Macron ainsi que Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ont précisé de manière un peu solennelle qu'il n'était nullement question d'instituer un quelconque ministère de la vérité et ont également précisé qu'un label de l'information devait être créé non pas par le gouvernement, mais par les professionnels de l'information eux-mêmes. Il n'empêche que cette proposition suscite pas mal de questionnements et d'inquiétudes qui me paraissent légitimes. Alors tentons d'y voir un petit peu plus clair en rappelant tout d'abord que cette idée n'est pas nouvelle pour Emmanuel Macron, qui l'a développée à partir de 2018-2019, qu'il l'a surtout développé dans le prolongement de ce qu'on a appelé les états généraux de l'information de 2024, qu'il organisait avec l'ONG Reporters sans frontières, RSF. Par ailleurs, tout récemment encore, je pense au 19 novembre dernier à Arras, Emmanuel Macron disait lui-même qu'il avait l'intention de tout faire, là je le cite, hein, tout faire pour qu'un label soit mis en place afin de distinguer les médias dignes de confiance contre ceux qui feraient de la désinformation. Alors, cela suscite des réactions qui me paraissent légitimes en ce qui concerne tout d'abord la possibilité de ce qu'on appelle une action judiciaire en référé. Permettre une action judiciaire en référé contre les fausses informations, c'est ce que Emmanuel Macron préconise, c'est ce qu'il voudrait mettre en place. Cela me paraît effectivement inenvisageable et inapplicable. Cela consisterait en fait à créer une procédure express pour saisir la justice afin qu'elle décide en urgence, c'est-à-dire en 48 heures, de ce qui est vrai ou ce qui est faux, pour faire retirer certains contenu, notamment sur les plateformes d'un certain nombre de réseaux sociaux. Mais le plus important, c'est certainement la proposition de labellisation. Dans un cas comme dans l'autre, le problème, me semble-t-il, est tout simplement celui de la vérité de l'information, c'est-à-dire comment distinguer les fausses informations, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron lui-même, des autres. Eh bien, il me semble que c'est extrêmement compliqué et même quasiment impossible. Je prendrai quelques exemples. Emmanuel Macron, le 19 novembre dernier à Arras, disait « Il y a la responsabilité des plateformes, il faut les obliger à retirer les fausses informations en visant les réseaux sociaux. » C'est oublié peut-être un peu vite que les médias généralistes, les grands médias, ne sont pas à l'abri d'un certain nombre d'errements, d'ailleurs on a pu l'observer dans le passé. Je prendrai quelques exemples, quitte à choquer certains de mes auditeurs. Par exemple, quelques jours avant l'attentat du Bataclan du 13 novembre 2015, Radio France qualifiait de fantasme d'extrême droite le risque d'infiltration terroriste lié au flux migratoire de l'époque. C'était considéré comme une fausse information qui malheureusement et tragiquement s'est révélée exacte. En septembre 2020, c'est la porte-parole du gouvernement de l'époque qui déclarait « On ne doit pas acheter de masques parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. » Il s'est avéré faux. À l'époque, il était d'ailleurs considéré comme complotiste d'affirmer que la vaccination n'empêche nullement la transmission du virus. Aujourd'hui, c'est parfaitement reconnu. En 2022, LCI soutenait que l'armée russe en était réduite à utiliser des puces de machines à laver pour équiper ses missiles. C'était bien évidemment une fake news. Il était encore considéré comme complotiste il y a quelques mois d'affirmer que les Russes n'étaient peut-être pas à l'origine de la destruction de leur propre gazoduc Nord Stream en mer Baltique en septembre 2002. Aujourd'hui, on a arrêté des agents ukrainiens qui ont fait le coup avec l'aval de l'OTAN et des États-Unis. Il était considéré également comme complotiste de mettre en cause le président Biden pour ses problèmes de santé mentale. On sait aujourd'hui qu'il était atteint de sénilité et c'est la raison pour laquelle il s'était retiré de la campagne des États-Unis. On pourrait multiplier les exemples de la sorte. En fait, le problème de la vérité des erreurs et des mensonges dans les médias est un problème extrêmement complexe et le risque, à l'évidence, serait non pas tant de combattre la désinformation, les fake news, mais plutôt les idées considérées comme divergentes, dissidentes, populistes, complotistes, non politiquement correctes. Prenons un certain nombre de cas. Comment faire la part des choses et comment décider si telle ou telle de ces propositions suivantes est vraie ou fausse? Si je dis « il n'y a scientifiquement que deux identités de genre », c'est vrai ou c'est faux? Si je dis « l'avortement consiste en l'élimination d'un enfant à naître », c'est vrai ou c'est faux? Lorsque France 2, dans complément d'enquête du 28 novembre, soutient sur la base d'un rapport de RSF, Reporters sans frontières, je cite, que le lien de causalité entre étrangers et insécurité n'existe pas et c'est la science qui le dit, est-il proposé, est-il déclaré par France 2. C'est vrai ou c'est faux? Etc, etc. En fait, le problème, donc, est extrêmement complexe. Et il y a une autre dimension qui mérite d'être également soulignée concernant le problème de la labellisation. Comment organiser cette labellisation? C'est-à-dire, si vous préférez, à qui confier, à quel organisme, à quelle institution confier le soin de décider ce qui est de l'information et ce qui relève de la désinformation? Qui désignera les journalistes chargés de labelliser les autres journalistes? Quel organisme impartial, unanimement reconnu par la profession, parce que c'est indispensable, sera chargé de décerner les labels en question, c'est-à-dire chargé de faire le tri entre les médias jugés suffisamment fiables et les autres. Une autorité qui dirait, si vous préférez, qui sont les bons et qui sont les mauvais médias. Et c'est ce que souligne, par exemple, entre autres, bien sûr, un certain Jean-Sébastien Ferjou, qui est un journaliste provenant de LCI et de TF1, mais qui sur un tweet a écrit le 1er ou le 2 décembre dernier « Un label, ce serait une catastrophe. Tant la polarisation du débat public français rend impossible l'idée d'une instance suffisamment neutre pour être impartiale et acceptée de tous. » Alors, je dis cela, mais en même temps, Emmanuel Macron ne s'est pas caché de la tentation qu'il avait de confier cette labellisation à une ONG qui s'appelle Reporters sans frontières. Alors Reporters sans frontières est tout à fait libre de ses orientations politiques, bien entendu, mais enfin, peut-on parler d'une instance neutre, objective, impartiale, à propos de rassemblement de Reporters sans frontières? D'une part, RSF dépend largement des subventions pour son financement, ce qui permet de mettre en doute son indépendance par rapport au pouvoir public. D'autre part, sa neutralité est plus que mise en cause par la plupart des journalistes. RSF ne se cache pas d'être marqué à gauche et d'ailleurs est parti il y a quelques mois maintenant en croisade ouverte contre les médias Bolloré, comme on dit. Elle est présidée depuis 2017 par un journaliste, Pierre Aski, qui est un ancien de Libération. Son directeur général, Thibaut Brutin, est connu pour avoir lancé entre les deux tours des législatives, en juin-juillet 2024, une pétition contre l'extrême droite et le Rassemblement national. C'est son droit, bien entendu. Mais en tout cas, c'est également le droit d'un certain nombre de journalistes ou d'observateurs de faire remarquer qu'on n'a pas affaire en ce qui concerne RSF, à une structure neutre, impartiale, susceptible de faire consensus parmi dans la profession des journalistes. On voit donc à quel point le problème est complexe. Il est d'autant plus d'ailleurs que l'ARCOM vient de désavouer le rapport de Reporters sans frontières et l'émission complément d'enquête du 28 novembre, interrogée par Le Point. En effet, l'ARCOM a affirmé n'avoir constaté en mars 2025 aucun problème de respect du pluralisme sur CNews, contrairement à ce qu'affirmait Reporters sans frontières dans ce reportage de complément d'enquête. Donc le problème est vraiment crucial. À qui pourrait-on confier effectivement cette responsabilité de décerner des labels à un certain nombre de médias? Alors, c'est un secret de polichinelle de toute manière que sont dans le viseur d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de structures, dont Reporters sans frontières, ce qu'on appelle les médias Bolloré. C'est vrai que les médias Bolloré sont des médias qui ont des obsessions identitaires, anti-immigration, anti-islam, qui sont incontestables et qu'on ne peut nier. Bon. Pour autant, l'ARCOM donc, a rappelé que globalement, le respect du pluralisme était assuré sur l'antenne, et puis il me semble intéressant tout de même de prêter attention à ce qu'un journaliste de BFM TV, Arthur Berda, déclarait le 2 décembre dernier. Vouloir faire le tri entre les bons et les mauvais médias, le risque serait de finir par ne cibler que les médias du groupe Bolloré. Et concernant l'obsession que certains ont par rapport aux médias du groupe Bolloré, je me reporte au Figaro une réflexion qui me paraît intéressante. Pour un article du Figaro du 2 décembre 2025, l'émergence des médias Bolloré, finalement, c'est un simple rééquilibrage du paysage audiovisuel français. Je cite le journal. Il est inquiétant de voir que le succès d'un acteur nouveau soit présenté comme un danger pour la démocratie, alors même que le paysage médiatique est loin de refléter les équilibres électoraux des Français. Que veut dire le journaliste ? Il veut tout simplement dire que les 40 ou 45% de Français considérés comme d'extrême droite, en raison de leur proximité avec le Rassemblement National, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan ou d'autres, sont évidemment loin de se reconnaître dans le paysage audiovisuel actuel, en particulier d'ailleurs dans le service public de l'audiovisuel. Alors, ça m'amène à effectivement une conclusion qui est la suivante. N'est-il pas d'abord contre-productif de jeter la. De considérer qu'il y aurait, si vous voulez, une distinction entre des rebelles officiels, considérés comme officiels, et d'autres qui ne seraient pas officiels. Je lis un tweet de Philippe Prigent, intéressant, qui, de manière humoristique, répond au président Macron: bonne idée. Tout média qui aura reçu le label sera ainsi identifié comme propagandiste d'État. En réalité, on risque de jeter donc la suspicion sur les médias dits officiels. Ensuite, et là je me réfère à une déclaration qu'avait faite en février 2023 M. Mestre, alors président de l'ARCOM, il avait mis en garde contre une forme d'esprit de censure qu'il voyait se dessiner, et je pense qu'il n'avait pas tort. La liberté d'expression, ne l'oublions pas, c'est la liberté d'exprimer des idées ou des opinions qui ne sont pas nécessairement les siennes, qui peuvent déplaire ou qui peuvent déranger. Et le risque que des informations erronées, voire mensongères, puissent être diffusées existe et existera toujours. Mais la liberté d'expression est à ce prix. Il faut combattre les fake news, bien sûr, d'où qu'elles viennent, mais avec les seules armes de la vérité.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05. 59 59 67 92.